Nous allons donc lire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 9 à 16, écrite par Paul, et le titre du message ce matin est « Va de l'avant ». Va de l'avant, avanti en italien. Hein. « Une seule chose m'importe, dit l'apôtre Paul. Une seule chose m'importe. » Alors je précise que j'ai mis la transcription « Parole vivante ». Transcription, c'est quoi? C'est ce que vous avez, vous, dans votre Bible. Eh bien, tous les mots qui sont écrits en grec, tous les sens du mot écrit en grec dans l'original, eh bien, sont traduits, ce qui donne une grande richesse à la traduction. Voilà. Toutes les nuances sont rendues, pratiquement. « Une seule chose m'importe, dit l'apôtre Paul, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. » Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Ne croyez pas que je sois parvenu au but, je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi, je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et de saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons déjà atteint à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Si toutefois sur un point quelconque vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Seulement, soyons conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent, que les vérités acquises dirigent notre marche, et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. Amen. Il y a plusieurs choses ici qui sont intéressantes. Une seule chose m'importe, et je serais tenté de nous poser à chacun la question, qu'est-ce qui t'importe? Quelle est la seule chose qui t'importe ce matin? Nous pouvons avoir différentes préoccupations. Plaire à ce monde? Vivre selon les principes de ce monde? Ne conduire notre vie que dans un but égoïste, c'est-à-dire pour nous-mêmes? Et même en tant que chrétien, on peut le faire. Mais on perd alors bien des choses que nous pourrions avoir, eh bien, comme bénéfice. Nous perdons le bénéfice de notre foi, finalement. L'apôtre Paul dit « Une seule chose m'importe ». Ensuite, il dit « Or, c'est là toute mon ambition ». Quelle est ton ambition ce matin? As-tu d'ailleurs des ambitions spirituelles? Il y a des gens qui déjà n'ont pas beaucoup d'ambition dans la vie. C'est pour ça que certains ne travaillent pas beaucoup à l'école, d'autres ne font pas d'études, etc. Mais dans le domaine spirituel, quelle est notre ambition? Avons-nous des ambitions? L'apôtre Paul avait pour ambition de connaître de mieux en mieux le Christ et d'expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances avec lui. À un moment donné, il va aussi dire « Je n'ai qu'une préoccupation ». Quelle est ta préoccupation? Quelle est ton unique préoccupation? Et il précise « Oubliant le passé et le chemin parcouru ». Nous le verrons, mais il y a des gens qui vivent uniquement par rapport au passé ou qui ne vivent que de leur passé et qui marchent, évidemment, de victoire en victoire. Non, de défaite en défaite. Parce que quand on est dans le passé, ça veut dire qu'on est encore dans des défaites. Et on marche de défaite en défaite alors que nous sommes appelés à vivre de victoire en victoire et à être transformés de gloire en gloire. Ensuite, l'apôtre Paul dit « Les yeux rivés sur le but, rivés au but. » Je m'élance. Il y a un effort. Il y a une activité. L'apôtre Paul bouge. Donc, on va voir tout cela. Alors, la première des choses qu'on peut voir à travers ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que l'apôtre Paul, déjà, il nous exprime une identité très affirmée. Il sait qui il est en Christ. Nous, nous nous contentons parfois de le chanter. « Je sais qui je suis en Christ. » Mais est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que je sais véritablement qui je suis en Christ ? L'apôtre Paul disait « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » C'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Quand nous le connaissons comme notre Sauveur, notre identité change, nous devenons une nouvelle créature. Nous sommes transformés par lui, une vie nouvelle vient s'implanter dans notre esprit, dans notre cœur. Nous naissons de nouveau. C'est tout nouveau. Des pensées nouvelles, une vision nouvelle du monde est en train de naître alors dans notre esprit. Tout devient nouveau. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles et de continuer à devenir nouvelles et à se prolonger dans ce prolongement de devenir toujours nouvelles. Parce que c'est quelque chose, c'est un verbe qui n'existe pas en français, c'est un verbe de continuité finalement. C'est un verbe qui nous parle de la continuité, de la permanence des choses, puisque nous sommes appelés à l'éternité, les choses sont perpétuelles. Il y a un mouvement perpétuel chez celui qui tourne ses yeux, qui donne sa vie au Christ. Nous recevons, quand nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien une nouvelle identité, et en quelque sorte une nouvelle empreinte digitale. Nous sommes pardonnés de nos péchés, c'est la grande nouveauté. Nous n'étions même pas conscients parfois qu'on était pécheurs. Puis dans la présence de Dieu, on est rendu conscient. On est convaincu de péché, nous dit la Bible. On est convaincu d'être misérable, nu devant Dieu, même aveugle. Et puis en venant à lui, eh bien nous recevons le pardon de nos péchés. Un fardeau puissant s'en va de nous. Nous sommes libérés d'un poids, le poids de nos péchés. Nous recevons, comme il a été dit ce matin tout à l'heure, la vie éternelle. En quelques instants, nous passons déjà de la mort à la vie, puisque nous étions morts dans nos péchés, morts quant à une relation à Dieu, et nous passons de la mort à la vie parce que nous connaissons notre Père, nous connaissons le Sauveur en quelques instants. Et nous recevons par conséquent la vie éternelle, et par conséquent la vie de Dieu, elle est déjà là, c'est pas, on ne l'attend pas pour l'éternité seulement, elle est déjà implanté en nous, nous en vivons déjà, nous recevons de cette vie et nous vivons par cette vie, nous marchons dans notre vie chrétienne avec Christ, avec cette vie qu'il a dispensée en nous, cette vie qu'il a implantée en nous. Se produit lorsque nous sommes sauvés une nouvelle naissance. Et c'est ainsi que nous trouvons notre identité en Jésus-Christ, notre véritable identité en Jésus-Christ. Moïse, vous connaissez tous un peu l'histoire de Moïse. Moïse était un homme pas très sûr de lui. Quand il l'a été, à un moment donné, il a tué un Égyptien. Moïse a une histoire particulière. Moïse fait partie de ces enfants de moins de 2 ans, les fils aînés qui devaient mourir parce que le pharaon craignait qu'il y ait quelqu'un qui vienne à sa place, sans doute, mais il craignait surtout que ne se produise une révolte de la part des Juifs qui étaient esclaves en Égypte. Et donc Moïse, eh bien, a été épargné parce que sa mère a eu la sagesse, l'intelligence de le mettre dans cette petite barque en jonc, là, barque faite de joncs, et de le laisser aller en le recommandant à la grâce de Dieu. Et chez qui est-il arrivé ? Il a fait un petit parcours sur le fleuve du Nil, et il est arrivé chez la fille de Pharaon, qui était une femme qui n'avait pas d'enfant, et qui s'est réjouie de pouvoir eh bien, prendre ce bébé qui n'appartenait finalement à personne. Et comme Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, cette dame avait besoin d'une nourrice pour le bébé, et qui a-t-elle pris? Une femme parmi les juives, parce que les femmes juives avaient la réputation d'être vigoureuses dans ce domaine. Et donc, sur qui s'est tombé? Sur la mère véritable de Moïse. Ce qui fait que, sans aucun doute, Moïse devait connaître son identité, son origine hébreu. Cependant, il était élevé selon toute la sagesse, l'intelligence, l'éducation des Égyptiens. Ce qui a fait de lui un constructeur, ce qui a fait de lui un homme pétri par cette civilisation égyptienne. Et puis quand un jour des Égyptiens ont maltraité ses frères hébreux, il a pris leur défense, mais il a été sanguin et il a fait selon ses propres conceptions, il a tué un Égyptien et il s'est attiré évidemment le courroux, la colère du pharaon. Et il est obligé de s'exiler. Et bien entendu, ça a été l'errance. Il est passé des richesses de l'Égypte, des privilèges qu'il avait eus depuis la naissance en étant dans la cour du pharaon, au désert du Sinaï, dans un lieu aride, finalement au niveau spirituel, quelque part c'était un peu aride pour lui, passer de la richesse, de l'opulence de l'Égypte à cette pauvreté du désert avec les troupeaux de brebis qu'il était appelé à conduire pour celui qui est devenu son beau-père, Jéthro, un Madianite. Et puis, il a quand même trouvé son épouse là-bas, une Madianite, Séphora, qui était l'épouse idéale pour Moïse. Mais néanmoins, il manquait quelque chose à Moïse et il est devenu cet homme curieux d'en connaître plus sur Dieu. Il avait aussi beaucoup de doutes en lui, il avait besoin de trouver son identité. Mais il a eu cette curiosité que beaucoup de gens n'ont pas sur cette terre. Les gens sont préoccupés du barbecue de midi. Les gens sont préoccupés de leur propre gloire, de leur succès, de gagner plus d'argent. Ils n'ont pas beaucoup de préoccupations autres, mais néanmoins, Moïse, qui se sentait vide, avait une curiosité et une préoccupation qu'il n'arrivait pas à définir, c'est évident. Et d'un seul coup, il a été happé par la vision d'un buisson qui ne se consumait pas. En plein désert, un buisson qui avait pris feu, mais qui ne se consumait pas. Le feu restait tel qu'il était, toujours nouveau, toujours pareil, toujours dynamique. Et la Bible nous dit qu'il a été distrait par ce spectacle, a été détourné de son but premier, il a su se détourner de sa préoccupation du moment pour aller voir par curiosité ce dont il s'agissait. Et c'est sur ce terrain saint qu'il va rencontrer le Dieu de la Bible, le Dieu de toute éternité, qui va se présenter à lui comme étant le « Je suis éternel, je suis ». Il va se présenter comme l'éternel, « Je suis », Yahvé. Et c'est en Yahvé, en ce « Je suis » qu'est Dieu, que Moïse va trouver sa véritable identité. Des doutes subsistent, il ne veut pas accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelle, il se trouve toutes sortes de prétextes, mais Dieu, à chaque fois, a le mot de la fin. Et Moïse est obligé d'obéir, et Moïse va être transformé de gloire en gloire. Cette curiosité, voyez-vous, cette recherche, cette quête de l'homme vers Dieu, est bénéfique, parce qu'elle est source d'une grande transformation, qui n'est pas de tout de suite, mais progressive. Et si nous sommes, comme Moïse, un poursuiveur de Dieu, quelqu'un qui est en quête de Dieu, un traqueur de Dieu, quelqu'un qui cherche vraiment Dieu pour être changé dans sa vie, pour le connaître intimement, comme l'apôtre Paul qui nous dit que sa seule et unique préoccupation est de chercher Christ et d'avoir cette communion avec lui, nous menons alors une marche avec le Seigneur qui va être différente de toutes les autres marches de chrétiens tièdes, dont la vie chrétienne est médiocre, faible, bas niveau. Nous allons avoir une vie aventureuse, une vie extraordinaire, une vie merveilleuse. Moi, je ne peux pas me contempler d'être sur un banc dans une église. J'ai besoin que ça bouge dans ma vie. J'ai besoin que le Seigneur s'empare de mon âme. J'ai besoin que le Seigneur me touche. J'ai besoin d'être secoué. J'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin d'être imbibé de lui, rempli de lui. J'ai besoin de connaître ce feu comme Moïse, qui a vu la personne de Dieu dans un feu immuable, un feu qui ne se réduit jamais en intensité. Et parfois, notre flamme, malheureusement, elle baisse. Mais nous avons besoin que la flamme qui est en nous, la flamme divine, puisse rester au même niveau et toujours grandir en intensité. Amen. Est-ce que nous ne voulons pas ça? Parce que j'ai posé des questions que ce n'est pas moi qui les pose, c'est la Bible. Une seule chose m'importe. Qu'est-ce qui t'importe comme seule chose? Quelle est ton unique préoccupation? Quelle est ton ambition spirituelle? Est-ce que c'est de traquer Dieu comme Moïse l'a fait et de découvrir notre véritable identité en lui, le sens profond de notre vie? Ou bien simplement se contente de rester sur le seuil d'une vie chrétienne qui nous est offerte, dont nous ne voyons que l'horizon, mais on ne veut pas faire les efforts pour aller plus loin. Les conquérants de la terre promise auraient pu rester à la frontière et regarder de loin le beau pays promis, mais non, ils sont entrés dans la conquête. Et nous avons à conquérir la vie chrétienne que Dieu nous offre. Nous avons à conquérir tous les trésors que le Seigneur met en réserve pour nous. Nous avons à entrer dans la plénitude de la vie qu'il a mise à notre disposition. Et c'est ça tout l'enjeu du salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, dit la parole de Dieu? Le salut, c'est un package. Il y a toutes sortes de cadeaux dedans. Mais il faut entrer dedans, déballer le cadeau. Parce que sinon, nous serons déçus. N'idéalisons même jamais la vie chrétienne, parce que si on n'est pas capable d'y entrer véritablement, ça ne sert à rien d'idéaliser. Il faut la vivre et pas l'idéaliser. Il ne faut pas en rêver, mais il faut la vivre. J'ai entendu parfois des gens qui disaient « Ah, il faut vivre ses rêves ». Et puis ils rêvent pendant des années, puis ils n'accomplissent jamais leurs rêves, parce qu'il faut entrer dans les rêves. Il faut entrer dans le plan de Dieu. Et il n'y a jamais un autre moyen d'entrer que de mettre un pied derrière l'autre et d'ouvrir les portes. Même s'il faut les ouvrir violemment, ce sont les violents, dit la parole de Dieu, qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents, non pas physiquement, mais cette violence qui dit « moi je vais y aller ». « Je m'élance », dit l'apôtre Paul, « je saisis, je gagne, je conquiers, je prends ce qui m'est réservé ». C'est violent et c'est ça qu'il nous faut faire. Gédéon est un autre type d'homme qui n'était pas très sûr de lui, mais qui a trouvé en Christ son identité. Il va lui dire « vaillant héros, va avec la force que tu as ». Lui, il avait fait quelque chose la nuit, puis après il regrettait peut-être de l'avoir fait parce que les ennemis, puis même son propre peuple était contre lui, parce qu'un acte de résistance, quand les gens sont un peu passifs et ne sont pas trop résistants, mais subissent les choses, alors il a fait ça de nuit et il n'osait pas aller plus loin. Et puis le Seigneur va lui dire, « Vaillant héros, va avec la force que tu as. » En Christ, nous recevons notre identité, nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, nous devenons des justes. Nous devenons comme Jésus. Quand Dieu regarde Jésus, il voit un être sans péché. Eh bien, quand il nous regarde comme nous sommes en Jésus, lavés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, il nous voit tels que Jésus. Et nous, nous les voyons des fois tellement mauvais, mais lui nous voit comme cela, et c'est pour ça qu'il nous dit « va de l'avant, parce que j'ai déjà tout accompli pour toi ». Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Dans Ésaïe 64, verset 5, le prophète dit « nous sommes tous comme des gens impurs, et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent ». Nous ne pouvons pas nous sauver par nos œuvres. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu par ce que nous faisons, que nous croyons être bien. Nous ne pouvons pas même dire que nous sommes des gens braves. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne n'est juste aux yeux de Dieu. Même le plus brave, des fois, dans la rue, des gens que j'aime bien, moi, qui sont braves et tout, mais quand vous leur parlez de Dieu, par contre, ils sont plus braves, ils sont hostiles. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas si braves. Leur cœur n'est pas pour Dieu. Si on n'est pas pour Dieu, on ne peut pas être brave. Parce que mépriser son Créateur, mépriser le Sauveur, ça ne peut pas être considéré comme brave. Et c'est dommage, des gens qu'on aime bien et qui ont des réactions comme cela. Le juste, Jésus, est venu justifier les injustes. L'homme sans péché est venu secourir les perdus, les pécheurs. L'apôtre Paul dira encore, pour nous illustrer cela, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. » C'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, l'histoire des religions, l'Église catholique, au Moyen-Âge, vendait des indulgences, c'est-à-dire pour que les gens soient sauvés par leurs œuvres, on leur donnait un bon, les gens devaient payer pour penser qu'ils étaient sauvés, alors que Jésus avait donné sa vie sur la croix. Et c'est pour ça que Luther... Et c'est ainsi que la réforme protestante est arrivée. Luther a découvert dans la Bible qu'on était sauvés non pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, la seule foi en Jésus-Christ. Pas besoin d'indulgence, pas besoin de payer pour son salut, parce que Christ a déjà payé pour nous. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, donc personne ne peut se vanter. Imaginez si le salut pouvait venir de l'homme, l'homme se vanterait d'être le sauveur. Et si nous pensons encore, eh bien, pouvoir nous consumer à faire des efforts, à faire des œuvres pour plaire à Dieu, c'est une chose vaine. Seul le sang de l'agneau sans tache qui a coulé sur le bois du calvaire, sur la croix, a pu satisfaire l'amour de Dieu. Sa justice, sa sainteté, c'est en Jésus et c'est en son œuvre sur la croix que l'amour de Dieu et sa justice et sa sainteté ont pu se réconcilier, s'embrasser. Cela doit faire donc partie de notre identité, sans quoi nous aurons une mauvaise relation avec Dieu, une relation qui sera biaisée, une relation qui sera faussée, et nous serons déçus car Dieu ne va pas nous répondre, ne va pas combler nos attentes si nous sommes sur un mauvais rail, si nous sommes sur des conceptions erronées, sur des bases fausses. Il nous faut donc nous placer sur les rails de Dieu et partir de notre identité en Christ. La grâce de Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons, dit quelqu'un, elle nous traite infiniment mieux que ce que nous méritons. C'est John Piper, un prédicateur, qui a dit cela. La grâce de Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons, elle nous traite infiniment mieux que nous le méritons. La priorité de Paul, il nous le dit, c'est être reconnu de Dieu et se trouver dans cette relation intime avec lui, une relation basée sur la foi et la confiance dans l'œuvre de Dieu et non sur ses mérites personnels. Beaucoup de gens marchent malheureusement comme étant sous une loi et non sous cette grâce, parce qu'ils ne connaissent pas encore leur Dieu. Il faut connaître Dieu dans sa grâce. Moi, j'ai connu des gens, ils étaient toujours en train de dire aux autres, « Faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, puis ça, faut pas le faire. Hein. Oh, ça, c'est le monde, ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas le monde, ça, c'est Dieu. Ça, c'est pas Dieu, c'est le monde. » Ou ça, l'homme ou la femme mûre spirituellement sait ce qu'il ou elle doit faire et n'a pas besoin qu'on lui montre 36 fois ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Nous ne sommes pas sous le coup d'interdits ou de choses autorisées. Nous savons comment conduire notre vie sur la base de la parole de Dieu et en même temps sur la base de ce que nous enseigne l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Nous n'avons pas à marcher sous une loi, nous n'avons pas à faire des efforts, nous n'avons pas besoin de nous sentir le devoir de faire quelque chose pour plaire à Dieu, nous n'avons pas besoin de nous justifier devant Dieu, il nous a justifiés en Jésus-Christ, car se justifier soi-même c'est dangereux, c'est pesant, c'est fatigant, c'est faire beaucoup d'efforts pour rien et nous fatiguer. Dans Ésaïe 57, verset 10, le prophète nous montre ce que Dieu dit à son peuple, « Mais tu n'as pas dit, c'est inutile. Tu as retrouvé tes forces, alors tu as vaincu ta fatigue. » Ou une autre version dit, « À force de marcher, tu te fatigues, mais tu n'as pas dit, j'y renonce. » Parfois, nous préférons nous fatiguer, nous préférons faire des efforts, plutôt que de recevoir la vie de Jésus. Jésus a dit « Mon joug est aisé, mon joug est facile. » Nous n'avons pas à porter des fardeaux inutiles, nous n'avons pas à porter des charges écrasantes. Portons déjà le fardeau que Dieu met sur notre cœur et qui est aisé, qui est facile. Obéissons-lui de cœur. Cherchons-le, lui, personnellement. Traquons-le s'il le faut. Cherchez et vous trouverez, dit la parole de Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Mais n'allons pas faire des efforts vains et inutiles. Dans Matthieu chapitre 16, versets 25 et 26, Jésus dira lui-même, « En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter ?» Quand Jésus dit que celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, il ne parle pas de mourir. C'est beaucoup plus difficile de vivre que de mourir d'ailleurs. Mourir pour Jésus, quand vous n'avez pas le choix, de toute façon, ça vient hein, tout seul. Vous êtes fusillé pour votre foi, vous n'y pouvez rien. Mais par contre, vivre pour Jésus, c'est beaucoup plus difficile parce que ça nécessite quand même des décisions, des prises de position. Celui qui est préoccupé de sauver sa propre vie ici-bas va la perdre. Mais celui qui la perd pour Jésus, il ne perd rien en fait. Il va trouver la vraie vie, nous dit Jésus. Parce que perdre notre vie, ça veut dire laisser la vie naturelle, la vie biologique, la vie terrestre, la vie charnelle, pour recevoir cette vie spirituelle que nous recevons dès que nous sommes sauvés. C'est être alimenté en permanence par cette vie-là et ne pas vivre selon nos aspirations, nos passions, nos vices d'avant, nos fautes d'avant, mais c'est vivre dans une nouvelle perspective, une nouvelle dimension, la dimension de Dieu et de sa pensée et de ses plans pour nous. Et c'est de cela dont Jésus parle. Perdre sa vie pour, eh bien, gagner la sienne. C'est un échange de vie, c'est une transfusion quelque part de vie. Et puis, Paul nous parle de la nécessité d'une vie transformée. Après l'identité en Christ, la nécessité d'une vie transformée. Comme la larve du papillon, la chrysalide qui devient, eh bien, un papillon. Nous devons être transformés de gloire en gloire, de degré en degré, comme vous le voyez là sur cette image. L'intimité avec Dieu, elle va générer notre identité en lui. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ma joie, ma paix avec Dieu, vous pensez bien qu'elle ne dépend pas du fait que je sois pasteur ou que je sers Dieu. Et nous ne devons jamais mettre notre joie et notre paix dans le service. Si notre joie et notre paix dépendent de ce que nous faisons pour Dieu, alors nous nous sommes trompés. Ma joie, ma paix doit dépendre de ma relation avec le Seigneur. Je suis d'abord un fils pour le Seigneur. Vous êtes une fille ou un fils pour le Seigneur. Et c'est cette relation filiale qui doit prédominer. C'est ça qui doit être en premier. Je n'existe pas par rapport à ce que je fais pour Dieu. J'existe par rapport à ce que je suis en Christ, un héritier de Christ, un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Et c'est d'abord cet amour-là qui me fait le servir. Je sers Dieu parce que je l'aime, parce qu'il est comme mon Père. Il est mon Père céleste. Quand des parents servent leurs enfants, quand ils mettent les langes ou quand ils changent l'enfant ou qu'ils lui donnent le biberon, ils ne le font pas parce que ils doivent le faire, ils le font parce qu'ils aiment leur enfant et qu'ils savent que pour grandir, cet enfant a besoin du lait. Eh bien, nous, nous agissons de la même manière, notre identité est en lui. Elle ne dépend pas de ce que nous faisons, elle ne dépend pas d'un service, mais de notre intimité avec lui, de notre connaissance de sa personne. Plus je le connais, plus j'expérimente ce qu'il est capable de faire pour moi, plus j'expérimente sa communion, plus il y a une intensité de sa gloire qui grandit dans ma relation avec lui. Dans nos cultes, quand on a 30 ans de vie chrétienne, je crois qu'il doit y avoir une étincelle de gloire quand on communie avec le Seigneur le matin. Je crois que notre étincelle de gloire, elle doit être plus grande quand même que celui qui vient seulement de passer par la nouvelle naissance, ou je me trompe. Bibliquement parlant, ce que je dis est réel, parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'éclat, il va croissant, vous savez, je ne me rappelle plus ces proverbes quelque chose, l'éclat du zénith, etc., il va croissant, et le palmier, il va aussi en croissant. La croissance, c'est naturel. Notre étincelle de gloire, notre éclat de gloire, il doit grandir. Mais hélas, parfois, le nouveau converti, au bout de 5 minutes, il a déjà plus de gloire que celui qui est là depuis 30 ans, parfois. C'est malheureux, hein, parce que celui qui est là depuis 30 ans, il s'est contenté d'être sur un banc, et il n'a pas expérimenté la communion avec le Seigneur, il n'a pas été plus loin, il s'est contenté d'être là, il est content. Il n'est même pas conscient de sa responsabilité dans ce monde, sa responsabilité en tant que chrétien, que disciple de Jésus. Et alors il est là, il est tout content, puis voilà. 20 ans après, il est toujours dans le même état. Des fois, il se demande pourquoi Dieu ne l'exauce pas ou pourquoi ça n'avance pas. De temps en temps, il se pose une petite question, voyez-vous. Mais hélas, notre vie doit être transformée de gloire en gloire. C'est ça le vrai plan de Dieu. Nous ne devons pas rester dans la stagnation. Il y a cet homme dans la Bible, sacrificateur Élie, qui a fini par avoir les yeux fixes. Il ne voyait pas plus loin que le bout de sa lorgnette au bout d'un moment. Pas plus loin que le bout de son nez. Il n'avait plus de vision spirituelle pour le peuple de Dieu. Et sa préoccupation n'était pas la gloire de Dieu, mais la gloire de ses enfants. Ses enfants faisaient le mal. Ses enfants étaient un mauvais exemple pour le peuple d'Israël. Il commettait infamie sur infamie et sa préoccupation, c'était de ne pas les châtier. Ce n'était pas la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui a dû châtier les enfants d'Élie. Et il a aussi châtié Élie à un moment donné, puisque Élie était devenu inutile en Israël. Il était temps qu'il passe dans la gloire parce qu'il n'était plus un serviteur, il n'était plus utile, il valait mieux qu'il remonte au ciel. Voilà, parce que il avait perdu pied, il avait perdu la vision. Et sans vision, nous dit la parole de Dieu, le peuple périt. Et le mot vision est associé à la connaissance expérimentale de Dieu. Cette communion que nous devons avoir avec lui. Connaître Dieu, ça génère le fruit de l'esprit, qui est un fruit durable. Et si nous sommes des adeptes des feux de paille émotionnels, frères et sœurs, sachons que ça ne produit pas de fruits durables. Combien de fois j'ai vu des jeunes aller à des grands rassemblements et revenir, il n'y avait plus rien. Combien de fois j'ai vu des moins jeunes aller de convention en convention. « Oh, c'était bien la convention !» Et puis le lundi, il n'y avait plus rien. C'était que le feu de paille émotionnel. Mais quand on vit quelque chose avec le Seigneur vraiment de profond, de réel, d'authentique, ça dure. La joie perdure, la communion perdure, la gloire de Dieu reste étincelante dans notre vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas reproduire d'autres événements comme cela. Aller plus loin avec lui, évidemment, on n'en reste pas ce qu'on a vécu hier. L'image, c'est la manne. La manne, elle était donnée chaque jour. Celui qui voulait manger la manne d'hier, il trouvait des vers dedans. C'était pourri. Et de même, en général, nous changeons de nourriture, même si nous mangeons quelques restes. 30 jours après, la viande qu'on a mangée aujourd'hui, elle va être avariée, il va y avoir des vers dedans. On ne mange pas la nourriture d'hier, on mange la nourriture quotidienne. Et pareillement, nous devons avoir une communion quotidienne avec le Seigneur, une communion renouvelée, ce qui permet au Seigneur de renouveler notre intelligence, de renouveler notre vision, de changer en constamment notre mentalité. Nous avons besoin de changer de mentalité. Tout à l'heure, en introduction, j'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient une drôle de vision de l'Église, qui méprisaient parfois même l'Église de Jésus-Christ, qu'il s'est acquise par son propre sang. Il faut changer de mentalité et immédiatement. Vous n'avancerez jamais, vous reculerez, vous régresserez, vous serez toujours arrêté si vous avez une telle vision. L'imperfection des uns ne nous excuse pas d'avoir des paroles dures à l'encontre de l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'en quelques secondes, par un réveil de son esprit, Dieu peut changer les cœurs. Déjà le vôtre, mais en plus, il peut changer le cœur de n'importe qui. Quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui dit « j'ai péché, j'ai eu la mauvaise vision », peut être transformé en quelques secondes. Alors ne regardons pas la paille qu'il y a chez les autres, mais enlevons cette poutre énorme qui bien souvent nous aveugle et nous empêche de voir la réalité de notre propre vie. Qu'est-ce que nous apportons à l'Église de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que nous apportons à Christ ? Quelle est notre préoccupation première ? Quelle est notre ambition spirituelle ? Quel est le but vers lequel nous tendons ? Avons-nous même un but ? Ou bien venons-nous au gré du hasard qui n'existe pas dans la maison de Dieu ? Comme ça, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Non, je crois que nous devons aller beaucoup plus loin dans notre expérience. Paul voulait vivre dans l'esprit de la croix. Il expérimente la vie de résurrection de Jésus. Il s'identifie à Christ dans sa mort. C'est l'image d'ailleurs que nous offre le baptême d'eau. Quand vous êtes plongé dans l'eau, immergé dans l'eau, vous êtes identifié à la mort de Jésus-Christ pour vous. Et quand on vous relève, si on vous relève, parce que le pasteur, des fois, il ne veut pas, il y en a qui restent au fond. Plus ils ont de péché, plus je les laisse au fond. Non, ce n'est pas vrai. Eh bien, quand vous vous relevez, eh bien, on vous émerge. Donc, c'est la vie de résurrection qui est symbolisée, voyez-vous. C'est cette expérience qui doit être faite au jour le jour. La vie d'avant, la vie terrestre, meurt. Nous mourrons à nos péchés, nous mourrons à nos passions, nous mourrons aux vieilles ambitions terrestres pour naître, renaître et ressusciter à la vie nouvelle, aux ambitions que Dieu veut placer dans notre cœur, au plan de Dieu qui veut se manifester pour notre vie. Et puis Paul voulait même communier aux souffrances de Christ, nous dit-il. Pourquoi ? Parce que quand nous souffrons, eh bien lui a souffert avant nous. Et il a été tenté en toutes choses, et il connaît nos tentations. Lui, il les a vaincues. Mais il peut sympathiser à notre souffrance dans la tentation, dans l'épreuve également, dans la difficulté. Et c'est pour ça que Paul voulait communier aux souffrances de Christ, parce qu'il savait que Christ avait déjà subi ce que lui pouvait subir. Et il savait que lorsque on est faible, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est tenté, Christ sympathise avec nous. Et nous pouvons communier avec lui dans ces moments difficiles. Ensuite, il y a la poursuite du prix. Eh oui, c'est Jesse Owens. les athlètes. Paul utilise en fait un langage d'athlétisme. À l'époque, il y avait des marathons. On l'a vu quand on a commencé à étudier les lettres aux sept églises. Dans cette partie de la Grèce, il y avait des marathons, des Jeux olympiques. C'est là qu'ils sont nés. Et vous savez très bien, j'ai presque failli mettre la musique de Rocky. Pourquoi ? Parce que Rocky, là, il s'est entraîné dans un but, vaincre son adversaire. Jesse Owens ou d'autres athlètes s'entraînent fortement, traitent durement leur corps. Pourquoi ? Pour gagner une compétition. Et là, il y avait un enjeu d'ailleurs. C'était les Jeux de 1936 à Berlin, au moment où le nazisme triomphait en Allemagne et que les nazis disaient qu'ils étaient la race supérieure. Sauf que c'est un noir qui a couru plus vite que les Allemands. Bon, Dieu a de l'humour. Il s'est servi de Jesse Owens pour confondre les choses sages de ce moment-là, pour les confondre et montrer sa sagesse à lui. Et l'athlète, il se concentre sur un but. Sur quoi es-tu concentré ce matin ? Dans ta vie, sur quoi es-tu concentré ? Moi, je remarque que souvent, on se concentre sur un tas de choses, mais pas sur ce qui est essentiel. Quand il s'agit de gagner pour Dieu, de conquérir pour Dieu, d'avoir une vie vraiment pleine et entière, une vie de plénitude, on n'est pas conquérant. On n'est pas un athlète. On ne se prépare pas, on n'a pas la vision, on n'a pas l'ambition. Paul, il avait cette ambition. Il poursuivait le prix. Il est concentré sur un but. Il fait des efforts pour remporter le prix. D'abord, il est entré dans la course. Il faut déjà entrer dans la course. Et ensuite, il a couru. Vous savez, quand on reprend, comme moi un peu, là, les gros, quand ils deviennent gros, ouais, ils ont envie de courir pour ne plus être gros. Ben, quand vous reprenez, c'est dur. Moi, je me rappelle quand j'ai repris il y a 3 ans, fallait que je cours 2 minutes, que je m'arrête 3 minutes et que je reprenne 2 minutes. Encore les 2 minutes, c'était insupportable. Mais le but est de se concentrer. Le but, c'était de reprendre une agilité que peut-être je n'avais plus et de me concentrer sur ce but. Et je suis entré dans la course. Et parce que je suis entré dans la course, j'ai pu courir. Mal au début, un peu mieux maintenant, mais ça pourrait être mieux. Hein. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de Jesse Owens, malheureusement. Mais la Bible dit, Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. » Parce qu'il marchait des kilomètres et des kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'était un athlète, l'apôtre Paul, même physiquement parlant, même si c'était un intellectuel, il faut voir comment il marchait. Hein. C'était un athlète à son niveau. Alors d'abord, entrer dans la course, courir, ne pas négliger notre vie spirituelle et faire autre chose, ne vivre que pour le monde, par exemple. Non, nous devons nous entraîner, nous former, être apprendre. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, comme je vous disais, sur des réseaux sociaux, ont un mauvais témoignage, ils critiquent l'Église parce qu'ils ont été déçus de telle ou telle personne qui, d'ailleurs, n'était peut-être même pas un vrai croyant, parce que nous avons parfois des hypocrites qui se mettent parmi nous. Il y a parfois des loups. Peut-être ont-ils été déçus par des gens comme ça. Mais il n'aura pas fallu grand-chose. Moi, je pense à tous les frères et sœurs qui ont vécu des fois des difficultés dans leur vie, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes avec les enfants, mais qui ont lutté sur leurs genoux dans la prière pour gagner chacun de leurs enfants, pour gagner leur famille à Christ, qui ont lutté sur leurs genoux quand ils étaient dans la difficulté, peut-être même avec un mari difficile, et qui sont des vainqueurs, et que certains, parce qu'on leur a marché sur un petit orteil, ou qu'on l'a même frôlé, ce petit orteil, ben ça y est, ils sont tellement déçus qu'ils n'aiment plus l'Église. L'Église, c'est la pire des choses qui ait jamais existé. Mais c'est vraiment de la fantaisie, c'est ridicule. Ils n'ont rien compris. Et je crois vraiment que nous devons entrer dans la course. Entrer dans la course. Et nous aguerrir, parce que si simplement parce qu'on nous frôle un orteil, on s'en va de l'Église, ben, chers amis, on n'est pas très aguerris. On n'est pas très musclé, on n'a rien d'un athlète spirituel. Un athlète spirituel, il ne regarde pas tout ça, ça coule comme sur de l'huile. Hein. Ça coule, ça glisse, voilà. Ça glisse et on a une ambition, une vision, une concentration. Certains diront, j'ai été déçu par des frères et sœurs. Moi, j'ai été déçu par le corps pastoral. Ça ne m'empêche pas d'être pasteur aujourd'hui. Ça ne m'empêche pas d'être dans l'Église. J'étais déçu par des frères et sœurs. Je suis dans l'Église, j'y resterai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que l'Église, c'est ce que Jésus a institué. Il a dit, je bâtirai, c'est au futur, je bâtirai mon Église. Je construirai mon royaume sur terre grâce à mon Église. Je bâtirai mon Église et le séjour des morts ne pourra rien contre cette Église. Et nous avons raison de tenir ferme. Nous avons raison d'être l'Église. Terrible comme une armée sous la bannière est l'armée du Seigneur. Cette Église, elle est là pour détruire les œuvres du diable dans la vie des gens, pour amener le pécheur au salut. Elle est là un lieu de guérison. Et même si parfois il y a des imperfections, des lacunes, c'est aux dirigeants, aux conducteurs spirituels de faire le ménage parfois. Il faut avoir ce courage de le faire aussi. Mais néanmoins, l'Église restera le lieu de la bénédiction. Voici le lieu de la bénédiction, psaume 133. Car c'est là le lieu de la bénédiction. Vous connaissez ce psaume 133 ? J'ai une perte de mémoire là soudaine sur le premier verset. Mais oui, la communion, vous savez, qu'il est bon pour des frères, voilà, de demeurer ensemble. C'est là qu'est la bénédiction, dit le Seigneur. Et puis Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, poursuivant, tendant de toute notre énergie, allant de l'avant, le prix de la course vers en haut, vers la vie céleste, et que cette vie céleste qui n'est pas seulement pour le haut, mais dès maintenant, habite en moi. Il courait pour cela, pour avoir cette profonde communion, et il refusait toute autre pression, tout ce qui peut lui faire perdre son temps, et nous devons aussi avoir peut-être racheter le temps. Il y a des stages aujourd'hui pour maîtriser son temps, vous savez ça ? Il y a même des pasteurs qui font cela, ces stages-là. Ce n'est pas inutile. Combien de leaders, même des chefs d'entreprise, perdent leur temps dans des choses qu'ils n'ont pas à faire ? Comme par exemple, Moïse perdait son temps à juger tout le peuple, et Jéthro lui a dit, bah, il faut que tu désignes des personnes capables de faire ce travail-là, tu dois déléguer. Eh bien, nous devons aussi apprendre à maîtriser notre temps, à racheter le temps, et quand nous avons un moment à passer avec le Seigneur, fermons nos portables, fermons tout contact parfois avec l'extérieur parce que nous allons être dérangés au moment où nous allons prier. Vous pouvez être sûr que le téléphone va sonner dès que vous avez décidé de prier. Alors si vous devez passer une heure dans la prière, eh bien faites-le. Fermez les portes, la sonnette, faites tous couper la sonnette si vous voulez, mais en tout cas prenez du temps avec le Seigneur. C'est important. Et même notre famille ne doit pas nous déranger. Le pasteur David Wilkerson mettait sur sa porte « Entrée interdite » quand il préparait son message. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Refusez la pression de tout ce qui n'est pas le temps de Dieu. Jésus, par exemple, à un moment, lui dit, tu dois aller à tel endroit. Ben, Jésus, il ne bouge pas. Il fait ce que le Père lui montre. À un moment, on lui demande de guérir un tel. Il ne le guérit pas tout de suite. Il fait d'abord ce que le Père lui montre. Même ça, des fois, on peut avoir des pressions sur des choses qui nous apparaissent légitimes. Ben, nous devons dire non et maîtriser notre temps. Et faire ce que Dieu nous montre. Je bâtirai mon Église. Ne pas vivre non plus des victoires passées, de la gloire du passé, mais nous allons de l'avant, le meilleur est devant nous. Toute autre chose que nous aurions comme vision, comme ambition, tout ce qui pourrait rester d'amertume, de manque de pardon, de déception, nous entraînera une seule chose dans notre vie, la paralysie. C'est-à-dire que nous ne bougeons pas d'un poil. Alors que Dieu veut que nous bougions. L'Esprit de Dieu, je l'ai déjà dit, il est dynamique. Il bouge, il va d'un endroit à un autre. Jésus allait d'un endroit à un autre avec ses disciples. Il bougeait dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que les disciples étaient désemparés, ils ne comprenaient pas. Mais quand ils ont compris par la suite, une fois que l'Esprit de Dieu était en eux, eh bien, ces hommes vont aussi faire la même chose, entrer dans la même dynamique. Et nous devons entrer dans la dynamique de Dieu, être maîtrisés dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Parfois, il y a des gens, ils ne veulent pas changer. J'ai telle pensée, ben je la garderai jusqu'à la fin de ma vie. On dit qu'il n'y a que l'imbécile qui ne change pas. Eh bien, je crois que Dieu nous appelle à ne pas être des imbéciles. Il veut renouveler notre intelligence. Il veut changer notre mentalité. Et si nous avons des pensées qui sont finalement le contraire de ce que Dieu pense, il serait peut-être bon de faire le ménage dans nos pensées, dans nos conceptions, de manière à avoir la pensée de Christ et avancer. Bouger enfin dans notre vie chrétienne, être changé par lui, communier vraiment avec lui, pas être là mais sans être là. Nous devons être ensemble. Et d'ailleurs, ce sera la conclusion de l'apôtre hein, dans son message. Quand nous l'avons lu, il est bien écrit, si toutefois sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente. Dieu vous éclairera aussi. Et il dit, soyez conséquents avec les convictions que nous partageons dès à présent. C'est ensemble, et sur tous les points où nous sommes d'accord, avançons ensemble. L'Église locale, c'est ensemble. Si vous n'êtes pas là alors que nous sommes là, il y a un problème. Alors changeons de mentalité. Laissons le Seigneur nous changer. Arrêtons de refuser qu'il nous change. Arrêtons de faire du blocage et de bétonner là, dans notre cœur et d'empêcher le Seigneur de nous transformer. C'est important, parce que sinon, on reste paralysé. Et comme Élie, le sacrificateur, nos yeux vont se figer et vont rester toujours tendus vers la même vision, une vision étriquée, une vision faible, une vision qui ne mène nulle part. Nous devons devenir des marathoniens, aller de l'avant, bouger, tendre nos muscles jusqu'à la limite. C'était ça que ça voulait dire, hein, quand il dit « je m'élance dans la course » et tendant vers la perfection, etc. Eh bien, ça voulait dire tendre la limite de ses muscles jusqu'à la... Oui, tendre les muscles jusqu'à la limite physique. Vous le voyez bien, quand ces hommes courent, ils ont les mollets, là, les muscles qui ressortent, parce qu'ils y vont. Hein. Et les coups de rein, ça y va quand ils courent. Sur quoi suis-je concentré ? Sur les faiblesses de l'Église ? Sur les faiblesses et les imperfections des autres ? Quel est mon but ? Quelle est mon ambition ? Rester tel que je suis, ou bien enfin bouger, changer et laisser Christ me transformer ? Paul nous enseigne que Dieu veut nous emmener finalement dans une dynamique par laquelle notre connaissance de sa personne va augmenter. Il nous entraîne dans une transformation qui va s'opérer de gloire en gloire et dans un marathon qui est lancé pour l'obtention du prix. Et ce prix, c'est la vie céleste dans la communion avec Christ. Un changement véritable de mentalité que la Bible appelle repentance, métanoïa. La repentance, c'est-à-dire le chemin que je prends qui va à l'inverse des conceptions fausses que j'ai eues jusqu'à présent. C'est un demi-tour que j'accepte de faire. Pour accepter de faire ce demi-tour, il faut une certaine humilité, et l'humilité, nous dit la parole de Dieu, précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous résistez à Dieu, ne trouvez pas bizarre d'être dans le mécontentement, d'être dans l'amertume, d'être dans l'aigreur, de ne rien voir bouger dans votre vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est pas une parole qui a été écrite dans la Bible comme ça pour faire beau, pour dire tiens, c'est un attribut de Dieu de résister aux orgueilleux. Ce n'est pas un argument théologique, c'est une réalité. Dieu résiste véritablement aux orgueilleux. Dieu a résisté à Saül. Dieu a résisté au Pharaon. Dieu a résisté à bien des hommes qui se sont élevés contre lui. Et Dieu résistera jusqu'au bout aux orgueilleux. Et Dieu a résisté à Satan, qui est l'orgueilleux par excellence, et il résistera à tous les hommes orgueilleux. Amen.